La femme a un rôle très spécial à jouer dans le plan de Dieu. Un rôle spécifique. C'est pas arrivé souvent qu'on a donné un message particulièrement sur ce sujet-là. Et c'est bon à un moment donné qu'on le fasse pour que nos dames dans l'Église voient à quel point elles sont précieuses aux yeux de Dieu, qu'elles sont importantes aux yeux de Dieu et que leur action a une portée, non seulement maintenant, mais une portée éternelle. Elles ont un rôle très spécial, un rôle très spécifique dans le plan de Dieu. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message, « L'important rôle de la femme dans le plan de Dieu ». Monsieur Meredith avait écrit dans « La pure vérité » de novembre 1965, en parlant des dames, il avait écrit ceci, et j'ai traduit. Pour être vraiment heureuse, une femme doit être consciente du but pour lequel elle a été créée. Et c'est la même chose de toute façon pour tous les êtres humains aussi, tant qu'on n'a pas compris pourquoi nous existons et ce qui nous attend, le but de l'existence humaine, on ne peut pas être heureux vraiment, parce qu'il manque la dimension essentielle du but de la vie. Alors je reprends ce que M. Meredith a dit. Pour être vraiment heureuse, une femme doit être consciente du but pour lequel elle a été créée. Et on parle spécifiquement ici d'une dame convertie, d'une dame chrétienne. Et elle doit se fixer des buts précis pour réaliser ce grand but ultime qui vient de Dieu. Alors, ça veut dire que chaque femme que Dieu appelle dans son Église, elle doit prendre des décisions, elle doit faire des choix à la lumière de ce que Dieu lui montre, de ce qu'elle apprend, de ce qu'elle vit, de ce qu'il lui donne d'expérimenter. Elle doit faire des choix, prendre des décisions, se fixer des buts à moyen terme, à court terme et à plus long terme aussi. Allez dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Bien sûr, c'est le moment où Dieu a créé Adam et Ève. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » Autrement dit, « Faisons l'être humain à notre image. » Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Entendez ici encore l'être humain. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, l'être humain en deux genres. Genre différent, genre masculin, genre féminin. Donc, au moment de la création, Dieu a voulu qu'il soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme. Et si vous remarquez bien, il a bien dit ici, il a créé les deux à son image. Alors, on voit que Dieu ne fait pas exception. Pour Dieu, les dames sont aussi importantes que les hommes. Il n'y a pas de différence à cet égard-là. Et remarquez que il y a la même promesse de Dieu aux deux en ce qui concerne leur avenir aussi. Ils sont destinés à développer une potentialité incroyable, à devenir membres à part entière de la famille de Dieu. Même chose, exactement. 2 Corinthiens, chapitre... Vous pouvez garder votre place dans Genèse, on va aller à 2 Corinthiens, chapitre 6, et on va revenir dans Genèse. 2 Corinthiens, chapitre 6. Regardez comment c'est joliment dit. Et ça démontre le point que je fais en commençant le sermon aujourd'hui. Même promesse de Dieu aux deux en ce qui concerne leur avenir. 2 Corinthiens 6 et le verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Dieu prend vraiment la peine de faire la distinction pour montrer qu'à ses yeux, les deux sont tout aussi importants, parce qu'il veut en faire des membres à part entière de sa famille. Maintenant, on retourne dans Genèse 2. Genèse 2, et on va lire le rôle 18, pas le rôle 18, mais le verset 18, pardon, c'est j'en étais à mon mot suivant. On va voir le rôle particulier de la femme dans l'équipe que Dieu forme dans un mariage. Alors, Genèse 2, non pas rôle, mais verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça n'implique aucunement que cette aide soit inférieure à l'homme. Absolument pas. Absolument pas. Et ce n'est pas non plus un mot ou un terme péjoratif. Une aide semblable à lui. Quelqu'un de secondaire. Non, non, non. Ça n'implique pas quelque chose de péjoratif, bien au contraire. Et je vais vous le montrer dès maintenant. Vous pouvez aller à Psaume 115. Psaume 115. Ce n'est pas un terme péjoratif parce que Dieu lui-même utilise le même mot pour se décrire lui. Dans certains de ses rôles et dans certaines de ses actions, il prend le même mot qu'il a utilisé pour désigner le rôle de la femme, pour désigner certains de ses rôles à lui ou certaines de ses activités précises. D'ailleurs, le mot « aide » qu'on a vu dans Genèse 2, 18, en français c'est « aide », mais dans l'hébreu, c'est « ézer », ça s'écrit « e-z-e-r ». Le mot hébreu utilisé, c'est « e-z-e-r ». Et j'ai tiré ça, comme certains éléments du message que je donne aujourd'hui, d'un article de M. Wyatt Cicilca, qui est paru dans le Living Church News de mars-avril 2011, concernant les devoirs puis la potentialité des dames dans l'Église. Alors, Dieu utilise ce mot-là, « ézer », hébreu, pour se décrire. Quand il aide des gens, quand il aide des nations, quand il joue le rôle d'aidant, de celui qui soutient, de celui qui encourage, de celui qui protège. Et regardez Psaume 115, verset 9. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Et le terme secours, ézer. Il est leur aide et leur bouclier. Alors, c'est pour ça que je vous dis, Dieu utilise le même mot pour se décrire lui-même. D'où l'importance qu'il accorde à la femme convertie, à la femme chrétienne, à la femme dans son Église. Il est leur secours, leur ézer et leur bouclier. Même chose au verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Encore le même mot, ézer. Psaume 70, un peu avant. Psaume 70. Et le verset 6. Moi, je suis pauvre et indigent. C'est David qui parle. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur, donc de m'aider. Tu es mon aide et mon libérateur. Et dans le hébreu, dans le texte hébreu, c'est tu es mon ézer. Et mon libérateur. OK, mon aide. Le même mot. Et là, il parle de Dieu, il parle de l'Éternel, il parle du Tout-Puissant. Alors, quand Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il a fait pour l'homme une aide semblable à lui, on voit qu'il n'est absolument pas question de notion d'infériorité en quoi que ce soit. Mais ça indique un rôle différent. Ça, c'est la différence que Dieu a voulu entre homme et femme, un rôle différent. Et c'est important qu'on comprenne ce rôle-là, pour que chacun dans l'Église, dans les couples, on joue le rôle qu'on doit jouer. Parce que si on accomplit les choses comme on doit les accomplir selon ce que Dieu nous a donné comme mandat, tout va pour le mieux. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne met pas ça de l'avant en action, il y a des conséquences. C'est des roues qui tournent comme si elles étaient carrées un peu, si vous voulez. Ça ne donne pas les résultats que ça pourrait donner autrement. Les deux ont été créés, je vous le rappelle, à l'image de Dieu. Et les deux ont la même potentialité. Et les deux, dans un couple, travaillent vers la même récompense, parce qu'ils auront la même récompense. Ils vont avoir la vie éternelle et ils vont avoir des postes d'autorité dans le monde à venir. Et ce n'est pas dit que dans certains cas, celle qui était épouse, celle qui était l'aide, n'aura pas un poste même supérieur à celui qui était son époux. Vous savez, c'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui prépare chacun, c'est Dieu qui sait ce que chacun fait avec ce qu'il lui donne, homme ou femme. Alors, il peut y avoir des différences en bout de ligne aussi. Mais une chose certaine, c'est que on voit par la Bible que Dieu chérit ses filles. Et Dieu veut qu'elles soient des aides pour leur mari, des aides dignes de confiance. Et qu'elles soient des conseillères sages. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un est une femme qu'elle est automatiquement sage. Parfois, dans la société, on laisse entendre que parce qu'une personne est une femme, elle sera automatiquement meilleure que telle autre. Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça pour personne, d'ailleurs. Parce qu'il faut développer les traits de caractère qu'il faut pour arriver au résultat escompté. Alors, Dieu veut que ses filles qu'il aime deviennent des conseillères sages. Et comment est-ce qu'on devient sage? On ne naît pas sage. On le devient. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, si vous manquez de sagesse et de discernement, demandez à Dieu. Mais on a tous besoin de demander de sagesse plus et discernement plus. Alors, la première étape à faire, c'est de demander à Dieu qu'il nous donne sa sagesse et non pas la nôtre. Parce qu'avez-vous remarqué, au point de départ, là, on en a tous une sagesse, mais c'est une sagesse humaine. Et monsieur, tout de suite, on est prêt à trouver les solutions et à savoir comment ça marche. Puis même avant de connaître Dieu, on règle les problèmes du monde et puis il n'y en a pas de problème pour nous. Parce qu'on a la sagesse, mais c'est une sagesse humaine. Et ça mène nulle part. On voit ce que ça donne dans l'histoire de l'humanité d'avoir voulu faire les choses à notre façon. La seule sagesse qui compte, et pour les hommes et pour les femmes, mais pour les femmes aussi, c'est de demander à Dieu de nous donner sa sagesse. Et ensuite, que les dames s'appliquent à mettre en pratique les éléments de sagesse que Dieu montre dans sa parole, dans les exemples des autres, dans la Bible, dans l'histoire ou dans l'Église autour d'elle. Proverbe 9. D'autre côté, Dieu réprimande sévèrement la femme qui est insensée. C'est le contraire. C'est le contraire d'être sage ou de développer la sagesse. Celle qui fait comme elle pense, comme elle veut, quand elle veut, à vitesse qu'elle veut. Et personne ne va lui dire quoi faire. Elle sait quoi, elle sait comment, elle sait quoi, elle sait ce qui est juste, elle sait ce qui est vrai. Proverbe 9 et le verset 13. Dans le français, ça dit « La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. » Mais dans la version King James ou dans l'original, le meilleur texte dit celui-ci « Une femme insensée est bruyante, stupide et elle ne sait rien. » Une femme insensée est bruyante, elle mène beaucoup de bruit, elle va voir beaucoup de monde, elle dit beaucoup de choses. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Elle dit tout ce qu'elle a entendu des autres et elle transporte ces commérages-là à d'autres. C'est pour ça que la Bible met en garde aussi de ne pas prendre le chemin des insensés pour faire ce genre d'approche-là, de commérage, si vous voulez. Alors, il dit, dans le texte original, « Une femme insensée, elle est bruyante, elle est stupide et, au fond, elle ne sait rien. » Et je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas pris de temps dans l'histoire de l'humanité pour que des gens deviennent insensés. Les deux premiers êtres humains sont devenus insensés en partant. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, la source de la sagesse, la source de ce qui est sensé. Et regardez, je vais vous l'expliquer un petit peu en détail, puis vous allez comprendre encore davantage. Ève est un exemple malheureux, mais clair, d'un geste insensé. Quand, après avoir parlé avec Dieu, après avoir été avec son mari, après s'être fait expliquer les choses, comme Adam s'était fait expliquer aussi, elle a posé un geste insensé, même de commencer à écouter le serpent. Et même de commencer à discuter avec lui. Elle aurait dû savoir mieux. Tout de suite, elle s'est détournée à ce moment-là de ce qu'elle savait pour aller fouiller ailleurs. Elle a été insensée même de commencer à écouter le serpent, à discuter avec lui, plutôt que de fermer la porte tout de suite. Non, merci. Et d'aller consulter son mari, d'aller en parler, dire, écoute, il y a quelqu'un ici, là, qui veut essayer de me dire certaines choses. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et là, on en discute. Voyez-vous? Non, elle a pris son propre chemin, dans le fond. Elle s'est séparée non seulement de Dieu, mais s'est séparée de son mari à ce moment-là, dans la façon de faire les choses. Déjà, il n'était plus un couple uni ensemble. OK? Elle a pris sur elle de faire les choses. Et elle n'aurait pas dû commencer à écouter cet étranger-là qui venait murmurer à ses oreilles des choses pour semer des doutes. Et il a réussi. Non seulement ça, mais elle s'est montrée, je dirais, doublement insensée, parce qu'après ça, elle est allée voir Adam, et là, elle s'est appliquée à vendre l'idée de Satan à son mari. Pensez-y, là. Je prends le temps de le dire lentement pour qu'on le voit. Elle a pris le temps d'aller voir son mari et dire, « Hey, regarde ce que j'ai trouvé, c'est merveilleux, regarde! » Sans considérer ce que c'était vraiment. « Goûte-y, c'est bon. » Voyez-vous? Elle s'est appliquée à vendre l'idée de Satan à son mari, et c'était pourtant une idée contraire à Dieu, parce qu'au fond, c'était une idée de rébellion contre Dieu. Parce que ça disait clairement que ce que Dieu avait dit était faux. On accusait Dieu de mensonge. « Dieu, vous a-t-il vraiment dit que vous allez mourir? » mais non, c'est pas ça. Voyez-vous? Alors, c'était directement une accusation sur Dieu. Satan est l'accusateur depuis le début de l'histoire. Et c'est pour ça que la Bible dit « Satan est l'accusateur de nos frères ». Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans l'Église de ne pas recevoir les accusations d'un et de l'autre, contre un et l'autre, ou contre le ministère, ou contre l'Église. C'est la même vieille recette de l'adversaire pour semer des doutes, pour créer des divisions, pour éloigner des gens de la vérité. Proverbe 14. On est dans Proverbe 9. Allons dans Proverbe 14. Proverbe 14, verset 1. Regardez la première partie du verset, comment c'est formidable. La femme sage bâtit sa maison. Ça dit peu de choses, mais ça dit tellement en même temps. Parce que la femme qui est sage, elle veut que son ménage fonctionne bien, elle veut que ses enfants apprennent les bonnes choses, elle veut les protéger de l'extérieur, elle veut soutenir son mari, l'encourager, elle veut obéir à Dieu, elle met Dieu en premier dans sa vie, même avant son mari. Et ce faisant, elle bâtit sa maison, pas seulement pour le temps présent, physique, mais également pour l'avenir, parce que sa famille aura une portée éternelle dans le royaume. La femme sage bâtit sa maison, mais regardez, la femme insensée, quant à elle, la renverse de ses propres mains. N'est-ce pas ce que Ève a fait? Et ce qu'on voit malheureusement autour de nous, on a comme expérience de vie, chacun de nous, des exemples qu'on pourrait citer de dames qui ont mis en ruine leur foyer, leur maison, leur famille, parfois pour des peccadilles, des bagatelles ou des choses sans valeur, pris le mauvais chemin. 1 Timothée 2. Vous savez, dans cette histoire-là, là, Ève, elle a été séduite par le grand séducteur. Elle a été séduite, elle a été trompée, elle a été induite en erreur, mais Adam, lui, n'a pas été séduit. Adam n'a pas été séduit parce que Dieu avait mis sur lui une responsabilité additionnelle et dans ce sens-là, il devait agir de façon particulière dans son rôle. Et Adam a laissé entrer le péché. Il a fait un compromis. Il a laissé entrer le péché dans ce qu'Ève lui a proposé. Il a fait un compromis par faiblesse, probablement. Pour plaire à sa femme, sans doute, pour ne pas la contredire. Mais parfois, dans un couple, parfois on doit tracer la ligne et dire non, ça c'est pas la chose à faire. Et on doit avoir l'honnêteté et la fermeté d'être capable de se parler sans s'entre-déchirer, mais de se parler clairement et de se protéger l'un l'autre. Parfois ça va être un qui va voir le danger et parfois ça va être l'autre qui va voir le danger. Mais il faut être capable de se dire les choses telles qu'elles sont pour protéger le couple et pour protéger la famille. Mais dans le cas d'Adam et Ève, Ève, elle a été séduite, mais Adam n'a pas été séduit. 1 Timothée 2, verset 14. 1 Timothée 2, verset 14. Regardez ce qu'il dit ici, c'est bien clair. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. OK? Adam n'a pas été séduit. Dans le fond, si j'explique un peu plus en détail, c'est que chacun a manqué à son rôle. Chacun n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer au point de départ. La femme n'a pas été soumise à son mari et à Dieu. Et l'homme n'a pas joué son rôle de leader protecteur. C'est, quand on le voit comme ça, là, on voit que les deux ont manqué dans leur rôle de base dès le début. Chacun a manqué dans son rôle respectif. Ève s'est laissée influencer par un autre que son mari. Et elle s'est placée sous l'influence, sous l'instruction, sous les enseignements de cet autre individu qui n'arrivait de nulle part et qui avait quelque chose, même si c'était rempli de douceur, qui avait quelque chose de complètement contraire à ce qu'elle savait et à ce qu'elle avait été enseignée. Et Ève ne s'en est pas remis à Adam et elle ne s'en est pas remis à Dieu dans la circonstance qu'elle rencontrait. Elle l'a pris sur elle-même. Adam, lui, n'a pas joué son rôle de leader protecteur. Parce qu'un leader protecteur trace la ligne à un moment donné. Il dit « Non, 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 mon épouse, on ne va pas plus loin là-dedans. Regarde, rappelle-toi ce que Dieu nous a dit. C'est lui qui nous a donné la vie. Là. L'autre, on ne le connaît pas, lui. Il vient d'arriver de nulle part. Puis lui, va avoir la vérité. Il vient simplement d'arriver. Il est tout nouveau sur la scène. Là. Et il vient nous dire quoi faire, alors que celui qui nous a donné la vie, nous a montré le chemin, puis il dit « Faites ça, je vais être avec vous. » Il ne nous a jamais triché, il ne nous a jamais menti. Et on va croire le nouveau venu. Voyez-vous, Adam aurait dû tracer la ligne de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il était le dirigeant du couple. C'est pas pour rien que Dieu a placé l'homme en charge de son foyer. Il y a des fonctions précises. Pour aimer sa femme, la servir, la protéger, l'encourager et ensemble bâtir quelque chose qui va durer. Et surtout, j'ajoute ça, dans le cas d'Adam et Ève et de la transgression qu'ils ont faite, les deux dans cette affaire-là, remarquez bien, ont laissé complètement Dieu en dehors du portrait. Ils ont laissé complètement Dieu en dehors du portrait. Et ils ne sont pas courus vers lui. Ils n'ont pas couru vers lui. Ils ont resté ensemble. Et après, ensemble, ils sont allés se cacher. Il y avait quelque chose qui n'était pas en règle à ce moment-là. Et ce faisant, parce que devant la situation problématique, ils ne sont pas allés demander à Dieu, ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait, ils sont devenus vulnérables au plus haut point et ils sont tombés. C'est ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que c'est si important, puis on en parle régulièrement dans les sermons, de s'en remettre à Dieu pour toutes choses. Les grandes choses dans notre vie, comme les petites choses, ou comme les choses qui nous semblent parfois anodines. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse, pour savoir quoi faire, quelle décision prendre. Puis ne pas aller trop vite pour décider, parce que ça, c'est dangereux. Vous connaissez la théorie des vendeurs, hein, pour dire, ça part comme des petits pains chauds, là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider. Je regrette de vous le dire, mais il faut que vous preniez une décision maintenant parce qu'il y a tellement de gens qui vont acheter ce produit-là et on est en quantité limitée. Alors, on vous vend l'argument de prendre la décision rapidement sans trop réfléchir, sans vérifier. Alors, c'est ce que Satan aime faire. Alors, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier auprès de Dieu. Ils l'ont laissé complètement en dehors du portrait. Toutefois, avec l'Esprit de Dieu, ce qu'on voit dans l'Église, c'est tellement encourageant, c'est que les dames deviennent capables de grande sagesse. De grande sagesse autant que les hommes, et même plus dans certains cas. Si la dame est davantage soumise à Dieu, et si elle est plus proche de Dieu que son mari, il peut y avoir des différences. Chacun, rappelez-vous, l'appel est individuel, et chacun fait le chemin selon ce qu'il décide de faire, avec le zèle qu'il décide d'y mettre, avec l'enthousiasme, avec l'ardeur ou non qu'il décide ou non d'y mettre. Alors, il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Mais avec l'Esprit de Dieu, les femmes deviennent capables de grande sagesse. Et Dieu montre les rôles précis que ces filles qu'il aime doivent jouer. Et le premier rôle, on en a vu un petit peu tantôt, c'est celle d'être aide de son mari. Ézère de son mari. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une collaboratrice. Ça veut dire quelqu'un qui est une associée dans la même entreprise Et je me rappelle quand on a décidé de se fréquenter, Angèle et moi, et après qu'on a décidé de fonder un foyer, on rêvait des enfants qu'on aurait, on rêvait des activités qu'on ferait, on rêvait de s'intégrer dans nos familles avec notre descendance aussi. On avait plein de beaux rêves comme ça et on a bâti là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on était des associés. On était les plus grands amis, on l'est encore. Et on avait décidé de vivre toute notre vie ensemble. Ça, c'était décidé au point de départ, qu'il n'y avait pas de retour. Et on continue, et on va continuer. Alors, le rôle d'une épouse, c'est d'être la collaboratrice et l'aide de son mari. Et on en a besoin. On en a besoin en tant qu'homme. Même si parfois certains hommes ne le reconnaissent pas ou hésitent à le reconnaître par orgueil, nous avons besoin de nos épouses. Adam se sentait dépourvu et Dieu a dit, je vais te faire une aide semblable à toi pour te compléter. Et Dieu a fait en sorte que la femme dans un couple complète l'homme. On est différent à beaucoup d'aspects, mais par le fait que ces différences-là, ça fait un équilibre. Ça fait un équilibre. L'homme est beaucoup plus froidement logique, la femme va être plus émotive. Alors, ça fait un équilibre, parce qu'on ne peut pas fonctionner juste avec la froide logique, et on ne peut pas fonctionner non plus seulement avec de l'émotion. Alors, ça prend un juste milieu. Et c'est là que l'équilibre se crée, lorsqu'il y a une belle harmonie dans un couple, qu'on peut se parler, qu'on peut échanger, qu'on peut s'encourager, et là, on avance ensemble. Et on appelle ça être heureux dans un couple aussi, et bâtir de quoi? De solide. Ne pas laisser traîner les choses lorsqu'il arrive des petits conflits ou des questions difficiles ou qu'on ne semble pas se comprendre. Il ne faut pas laisser aller les choses, mais vider la question. Pas laisser les problèmes s'accumuler et devenir des abcès et devenir des cancers qui sont plus guérissables avec le temps. Le problème de certains couples qui se sont séparés, c'est d'avoir laissé trop longtemps perdurer des situations qui n'ont pas été adressées ou qu'on n'a pas traité au bon moment et de bonne façon. Et parfois, les hommes n'avaient pas appris à écouter. Ils avaient appris à être des hommes, dans le sens de macho. Ils avaient raison parce qu'ils étaient des hommes. Et ils ne voyaient pas la petite dame à côté qui, elle, avait des besoins particuliers. Faut qu'elle pense comme moi, faut qu'elle fasse comme moi, parce que c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est l'homme macho qui voit pour lui-même et qui ne voit pas que la petite dame à côté, c'est une personne aussi importante que lui, mais elle est différente et Dieu l'a voulu comme ça pour que le couple se complète et qu'il soit une aide les uns pour les autres. Et mon épouse m'a aidé énormément de ce côté-là par sa sensibilité, alors que moi j'étais plus fonceur, si vous voulez, et plus logique et plus froidement logique. Et parfois, elle m'amenait des arguments qui m'aidaient à équilibrer les choses. Comme moi, dans l'autre sens, je lui aidais aussi. Quand ça a été le temps, je peux vous dire en passant, quand ça a été le temps, je vois qu'elle me regarde avec un œil suspect un peu, mais sois pas inquiet. Je me rappelle que je voulais que les enfants apprennent à nager, par exemple. C'est un petit exemple dans l'autre sens, mais nous, pour qu'ils apprennent à nager, ça prend de l'eau. Et il faut qu'ils fassent des expériences, et puis il faut des fois qu'ils avalent de l'eau un peu, puis bon, on leur montre. Mais en tant qu'épouse, ça lui coupait le souffle de voir que j'emmenais les enfants parfois dans des endroits où il y avait beaucoup d'eau et je les laissais se débattre un peu ou faire des expériences. Mais c'était le point de départ. Je les surveillais quand même, je ne les mettais pas en danger. Mais pour elle, c'était plus difficile parce que, mes enfants, qu'est-ce qui va leur arriver? Non, alors je disais, non, rassure-toi, regarde, je ne vais pas à l'excès, je fais attention. Mais ça a été les débuts, ils ont appris à nager. Voyez-vous? Alors, moi, je la complétais et elle me complétait. Dans d'autres fois, quand moi, j'étais trop expressif pour aller de l'avant ou trop direct, elle me disait, ben écoute, tu ne penses pas que ce serait mieux d'aller plus doucement ou de considérer tel point de vue de la personnalité d'un des enfants ou tout ça? Et là, on arrivait à un équilibre. On s'entendait. Alors, c'est pour ça que Dieu a fait les choses en sorte que nous soyons différents, hommes et femmes. Et la femme, dans ce sens-là, elle est une aide extraordinaire parce qu'elle nous amène ce côté-là, ce côté joyeux, ce côté sensible, ce côté perceptif des sentiments et des émotions des autres. Ce que nous, en tant qu'hommes, on n'est pas toujours capable de faire. Parce que notre cerveau d'homme limité et pas capable toujours de prendre la lecture exacte des sentiments d'une personne qui nous parle ou qu'on rencontre, par exemple. Alors que les femmes ont comme ce sixième sens-là d'être capable de voir ce que l'autre ressent ou ce que l'autre pense, alors que nous, on ne perçoit pas tout le temps. Alors, si on est proche un de l'autre, bien, l'homme va accepter que la femme lui fasse penser que quand j'ai fait telle chose ou quand j'ai dit telle chose, as-tu remarqué que la personne a réagi de telle façon? C'est parce que là, elle ne recevait pas ce que tu lui disais. Comprenez-vous? Elle l'a senti, mais moi, je ne l'ai pas vu. Et là, ça m'aide pour la prochaine fois, quand je parlerai à cette personne-là, d'aborder les choses de telle façon. Mais si je ne tiens pas compte de sa sensibilité, qui est pour moi, dans le fond, un outil précieux, voyez-vous que je me prive de faire les choses de bonne façon et je peux créer des problèmes. Et je ne suis pas en harmonie avec elle. On n'est pas un couple qui avance vraiment et qui sont un bonheur pour les autres autour. Alors oui, la femme est une aide précieuse pour l'homme, un encouragement, une consolation aussi. Il y a des moments dans notre vie, messieurs, où on a besoin de consolation. Ça a été vrai quand on était tout petit, mais c'est vrai quand on est plus pesant un peu et qu'on est plus grand et plus gros et qu'on est rendu à l'âge adulte. Et notre femme, par des paroles, sait nous consoler ou sait nous aider à passer certaines épreuves. On en passe tous. Et il y a certains hommes qui ne seraient pas là si leur femme ne les avait pas encouragés, consolés, aidés à tenir le coup dans des circonstances extrêmement pénibles. Et moi, je peux vous dire pour un que j'ai connu ce genre de situation-là aussi. Et j'en suis énormément reconnaissant à ma femme. Alors, voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on a plus de muscles physiquement qu'on peut accomplir beaucoup plus. Il y a d'autres choses de plus importantes que ça. Il y a des muscles émotifs et des muscles spirituels et des muscles d'aide autres qui nous viennent et qu'on a absolument besoin. Et notre épouse, dans ce sens-là, et c'est un rôle que Dieu veut qu'elle joue, notre épouse est notre conseillère. On n'est pas obligé de faire ce qu'elle dit, mais elle est notre conseillère. Oui, oui. Parce qu'on doit sous-peser les choses, mais considérer le point de vue qu'elle nous amène. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une épouse a une idée vers son mari, qu'il doit l'accepter ou jouer à Adam dans ce sens-là, mais il doit considérer, au moins considérer ce qu'elle apporte comme idée. Et notre épouse nous montre différents points de vue dans la façon de voir les choses. Et ça aussi, c'est une complétion de l'homme. Alors ça, c'est le premier rôle d'une épouse. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Ça a une portée incroyable. Un autre rôle que Dieu veut que les épouses jouent, c'est le rôle d'enseigner les garçons et les filles, leurs enfants. Garçons comme filles, selon les voies de Dieu. Proverbe 1. Proverbe 1. Proverbe 1. Et le sermon d'aujourd'hui, il s'adresse aux célibataires aussi. Parce qu'éventuellement, vous pourriez être déchu de votre titre de célibataire. On ne sait jamais. Ou même si vous restiez célibataire, c'est important que vous compreniez vos sœurs dans l'Église, vos sœurs qui sont des épouses ou vos sœurs qui sont célibataires aussi, pour voir l'importance qu'elles ont aux yeux de Dieu et que vous ayez ce respect-là envers elles. Alors, un autre rôle important que Dieu donne aux épouses, aux dames. On le voit Proverbe 1, verset 8. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Alors, on voit ici encore l'équipe d'un couple par rapport aux enfants. Il dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ça veut dire que les deux parents doivent être impliqués dans l'éducation des enfants. Et vous trouvez la même chose à Proverbe 6, verset 20. Proverbe 6, verset 20, vous pourrez aller voir. Voyez-vous, on voit dans ça, je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas le thème principal de mon message, mais on voit dans ça que c'est le père qui doit être en charge de l'éducation des enfants dans la famille. Mais que son épouse est avec lui dans cette entreprise-là. Mais c'est lui qui doit être le leader dans la question de l'éducation des enfants. Mais en même temps, il délègue ses prérogatives ou ses responsabilités à son épouse. Son épouse devient, dans un sens, si vous y pensez, le porte-parole, son porte-parole, comme le Christ est le porte-parole du Père. Ils travaillent ensemble, en parfaite harmonie. Le Père a toujours un poste plus élevé que celui du Christ, mais le Christ est son porte-parole. Et quand vous avez vu un, vous avez vu l'autre. Et pour les enfants, dans une famille, il faut que, quand un parent dit une chose, c'est comme si l'autre avait dit la même chose. Il faut qu'il y ait une unité dans la tête de la famille, dans le gouvernement de Dieu. Et ça, c'est une pratique. Mesdames et messieurs, là, c'est une pratique pour le gouvernement de Dieu dans le monde à venir. Ce que vous faites maintenant, ça a une portée éternelle. Et ça a une portée très puissante dans le royaume. Ce que vous faites en tant que couple et en tant que parent. On a plusieurs exemples de femmes très estimées en Israël. Des femmes qui ont joué des rôles importants. Des femmes qui ont réalisé des choses. Des femmes qui ont enseigné aux enfants. Et ce faisant, ils ont bâti l'avenir de leurs enfants. Et en même temps, ils ont bâti l'avenir de la nation. Et c'est ça. Quand on enseigne, on fait quelque chose qui a une portée sur le futur, sur l'avenir. C'est pas juste pour aujourd'hui. Ça a une portée énorme. Proverbe 31, et nous allons lire dès le début. On parle de femmes dans la Bible ici qui ont été des exemples, des femmes estimées de Dieu, qui ont joué un rôle important pour leur famille, leur nation. Ici, ça décrit la femme vertueuse, vous le savez, Proverbe 31, versets 1 et 2. « Parole du roi Lemuel, sentence, c'est-à-dire des phrases ou des enseignements par lesquels sa mère l'instruisit. » Alors, voyez-vous le rôle de la mère de ce roi-là? Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Et après, elle dit, « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? » Et ses vœux, c'est que son fils réussisse, comme toute mère, que ses enfants réussissent, qu'ils connaissent une vie heureuse à leur tour. Alors, on voit ici déjà, par cet exemple-là, que Dieu loue la femme qui fait son rôle comme il faut, son rôle d'enseignante dans la famille, d'enseigner ses enfants, de soutenir son mari dans l'enseignement des enfants. Vous avez Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, qui est citée à plusieurs endroits comme étant un personnage important. Parfait, non. Elle a manqué son coup à différentes reprises, comme les dames que Dieu appelle dans l'Église manquent leur coup de différentes façons, et sont en train d'apprendre, comme nous, messieurs, on est en train d'apprendre. Mais c'est intéressant de voir que Dieu prend la peine de souligner le travail de nombreuses femmes dans l'Église. Et vous pourrez aller voir dans Michée 6, verset 4, il parle de Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, et il dit, « J'ai envoyé devant toi Israël, et Dieu rappelle ce qu'il a fait pour Israël, la nation, quand il les a sortis d'Égypte, il dit, « J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. » Il n'a pas juste dit Moïse et Aaron. Moïse, Aaron et Marie. Alors, Marie a joué un rôle important là-dedans aussi. Et vous pourrez aller voir Exode 15, versets 20 et 21. On voit que quand, à la fin de sa vie, Moïse a écrit ce magnifique cantique et qu'on l'a chanté, Marie a pris les tambourets, les instruments de musique et elle a amené les autres dames à danser et à chanter ce cantique-là devant l'Éternel. Alors, voyez-vous, une femme d'initiative, une femme de caractère, une femme qui avait développé des attributs que Dieu voulait voir développer. Alors, c'est une autre des dames qu'on voit dans la Bible. Juge 4. Ça, c'est imposant aussi comme exemple. Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4. Ici, on va voir le cas de Déborah, rapidement. Vous l'avez probablement déjà vu, ce passage-là. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Déborah, elle était juge en Israël. Ah, surprenant. Déborah, juge en Israël. On ne voit pas ça souvent. C'était des hommes qui étaient juges. Je vais vous dire pourquoi elle a été juge en Israël. Une des raisons. Parce qu'Israël avait besoin d'avoir un leader fort, et qu'à ce moment-là, dans toute la nation d'Israël, il n'y avait pas un homme qui était capable de se tenir debout. Il n'y avait pas un homme qui était capable d'être un vrai leader et de diriger la nation. Et Dieu leur a fait une leçon en désignant une femme comme juge. Ça s'est passé à notre époque, d'ailleurs, avec la nation d'Israël. À un moment donné, ils ont eu un premier ministre du nom de Golda Meir, Certains se rappelleront de cette dame-là. C'était une dame extrêmement forte. Et c'est un peu le même phénomène qu'on voit ici avec Déborah. Et plusieurs des diplomates israéliens disaient à ce moment-là, oui, nous avons une femme comme premier ministre d'Israël, et c'est pas selon nos coutumes, mais c'est le meilleur homme que nous avons pour le moment. C'est la déclaration qu'on faisait, parce qu'il n'y avait pas de leader assez solide pour diriger la nation, pour se tenir debout, contrairement à ce qu'Adam avait fait, si vous voulez. Alors, Juge 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée est Sisera, et habitait à Haroshet-Goïm. Bon. Verset 4, un peu plus loin. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lipidot, était juge en Israël. Et vous pourrez lire le reste du passage. Je ne vous donne pas le contexte, parce que c'est pas ça que je vais vous expliquer. Je vais vous montrer que Dieu, à un moment donné, a désigné certaines femmes dans certains rôles, qu'il n'y avait pas un homme qui pouvait le faire. Parce que les femmes peuvent avoir des grandes qualités. Puis dans certains cas, Dieu montrait à ses enfants, aux Israélites, qu'il n'y avait pas d'homme capable de remplir cette fonction-là. Et regardez, elle le dit clairement, Juge 5, verset 7. Elle parle d'elle-même, ici, Déborah. Elle dit, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. » Elle l'explique clairement, elle répète, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Et elle a agi comme une mère à un moment donné qui doit mettre le pied à terre dans la maison quand il n'y a pas de père ou quand le père n'est pas là pour mettre de l'ordre dans la maison et faire en sorte que les choses aillent comme elles doivent aller. Et c'est un bel exemple, c'est un bon exemple. On voit le cas aussi de Anne, ça c'est intéressant aussi de voir. Anne, vous irez voir dans Luc 2, verset 36 à 38, c'était une dame très âgée et elle passait presque son temps au temple à prier Dieu. Elle attendait la venue de Jésus. Et quand le Christ est venu, elle l'a vu et elle l'a annoncé aux autres et tout ça. Et on voit là-dedans le rôle qu'on voit être joué par plusieurs de nos veuves actuellement dans l'Église. Et je pense entre autres à Mme Simonin, par exemple, que je connais depuis plusieurs années, une des anciennes secrétaires de M. Appartient, qui est plus limitée à cause de son âge, bien sûr, mais qui étudie sa Bible chaque jour, qui prie pour l'Église, qui demande qui a besoin et qui prie pour ces gens-là, qui envoie des petits mots d'encouragement à gauche et à droite. Elle fait le travail de l'œuvre. Elle est un exemple, comme plusieurs autres veuves dans l'Église de Dieu à travers le monde des gens âgés, qui sont plus limités dans leurs moyens physiques, mais qui ne sont pas limités dans leurs moyens spirituels. Vous prenez le cas d'Esther, on ne s'y reportera pas, mais Dieu a fait en sorte qu'un livre entier de la Bible soit consacré à cette dame-là, que Dieu chérit comme une de ses filles qu'il aime et qui aura un rôle précis à jouer dans le monde à venir. Oui, les femmes sont vraiment spéciales aux yeux de Dieu et il chérit ses filles profondément. D'ailleurs, quand vous regardez le cinquième commandement, Exode 20, verset 12, quand Dieu dit aux enfants d'honorer leurs parents, il prend la peine de préciser « Honore ton père et ta mère ».« Honore ton père et ta mère ». Parce que pour Dieu, un couple, c'est une équipe. Un couple, c'est une équipe. Et ce ne sera pas surprenant que pour ceux qui sont appelés en couple maintenant, qu'ils puissent dans le monde à venir travailler ensemble en tant qu'équipe aussi. Dieu est un Dieu logique. Dieu, il y a une suite dans les choses qui se fait. Vous pourrez aller voir aussi, Paul vante les qualités puis les actions de plusieurs femmes de l'Église. Vous irez voir dans Romains 16, verset 12. Je n'irai pas là aujourd'hui, mais vous pourrez compléter votre étude. Romains 16, verset 12. Vous pourrez aller voir Philippiens 4, verset 2 et 3. Philippiens 4, verset 2 et 3. Vous irez voir dans 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Et là, l'apôtre Paul vante la mère et la grand-mère de Timothée. Il prend la peine de souligner que c'est grâce à sa mère et à sa grand-mère que Timothée a appris les Saintes Écritures et qu'il a appris les voies de Dieu et ainsi de suite. En même temps, on voit l'importance du rôle d'éducation. Voyez-vous, ces femmes-là avaient pris le temps d'éduquer leurs enfants, de parler à leurs enfants. Et je trouve ça beau de voir les gens dans l'Église montrer à leurs tout petit, les voies de Dieu. Et même à l'heure plus vieux, lorsque l'occasion se présente et que c'est souhaitable de le faire. Il faut être sage selon les circonstances, bien sûr. Vous pourrez aller voir Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. On parle de Phébé, qui était une diaconesse. Parce que Dieu permet qu'il y ait des diaconesses qui soient dans l'Église, certaines femmes soient ordonnées comme diaconesses, qui n'est pas une responsabilité d'ordre spirituel, mais qui est une responsabilité de service dans l'Église. Vous vous rappelez aussi Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Le Christ en parle souvent. C'étaient des grandes amies du Christ. Je donne ça dans le contexte de l'importance que les dames ont aux yeux du Christ et aux yeux du Père, que ce ne sont pas des créatures de seconde zone, mais aussi importantes que les hommes. Toutefois, selon les instructions divines, bon, les femmes ne peuvent pas être ordonnées en tant que ministres. Ça, on sait. C'était la même chose dans l'Ancien Testament. Dieu a créé l'homme et la femme différents. Je vous en ai parlé tantôt, mais pour qu'il y ait un équilibre dans le couple. Et Dieu veut que les différences entre féminité et masculinité soient marquées. Et c'est pour ça que c'est différent du côté de l'habillement. Et c'est pour ça, bien, regardez qu'il y a 1 Corinthiens 11. Ça vaut la peine qu'on fasse un petit saut du côté de 1 Corinthiens 11. C'est pour ça que Dieu fait une différence entre hommes et femmes pour ce qui est de la longueur des cheveux. On est surpris les premières fois qu'on entend ça quand on vient à l'Église, mais Dieu veut que ce soit comme ça. Et quand on s'y conforme, ça plaît à Dieu, ça montre qu'on est soumis à son autorité, à son gouvernement. Regardez 1 Corinthiens 11, verset 14 et verset 15. « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? » Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et c'est pour ça que dans l'Église, on montre aux hommes à ne pas se laisser pousser les cheveux pour que ça dépasse sur le collet de chemise en arrière, puis ça dépasse par-dessus les oreilles, ou que ce soit une coupe plus masculine. Mais que c'est une gloire, verset 15, pour la femme d'emporter des cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voyez-vous, ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, si on veut plaire à Dieu, on fait cette distinction-là entre hommes et femmes dans notre façon de garder nos cheveux. Court pour les hommes et long, plus long pour les femmes. Verset 16, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude dans les églises de Dieu. » Alors, on ne conteste pas parce que Dieu nous a montré clairement qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, Dieu a donné à la femme beaucoup de beauté, a donné à la femme beaucoup de charme, a donné à la femme beaucoup de grâce. Mais en même temps, il y a un danger qui vient avec ça aussi. C'est qu'elle doit rester humble. Malgré sa beauté, malgré ses charmes, malgré la grâce que Dieu lui a donnée. Et Paul en parle, 1 Timothée 2. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. On va commencer à lire au verset 9. Verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Oups! Là, je me rappelle, on a déjà eu des questions là-dessus. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas porter de bijoux, qu'on ne peut pas avoir une bague en or, qu'on ne peut pas avoir de beaux habits ou tout ça? Non, ici, il fait un point pour faire en sorte qu'on ne mette pas l'importance sur ces choses-là. C'est ce que ça veut dire. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors ici, c'est la question de mettre les priorités aux bonnes places. C'est comme certaines personnes peuvent être très, très riches et être membres d'Église. Abraham. Dieu n'a jamais reproché à Abraham d'être très, très riche, ni à Job non plus. Par contre, il y en a d'autres qui étaient très, très, très riches, qui se vantaient de leur richesse ou qui comptaient sur leur richesse. Là, Dieu avait quelque chose à leur montrer, parce qu'il dit « c'est pas ça votre valeur ». Voyez-vous? Si quelqu'un a un certain moyen, mais pour lui, ça demeure des moyens, tout simplement, pour faire le bien, pour faire sa vie, pour soutenir l'œuvre et tout ça, il n'y a pas de problème. Et c'est la même chose en ce qui concerne les beaux habits, les bijoux, tout ça. On peut avoir des bijoux, on peut avoir des beaux habits, selon ce qu'on peut se permettre financièrement. Mais il ne faut pas que ce soit là notre valeur. Je suis quelqu'un parce que j'ai un bel habit. Je suis quelqu'un parce que j'ai plus de bijoux, parce que j'ai des bijoux de plus grande valeur. Là, ça, c'est pas l'humilité que Dieu veut voir. C'est-à-dire que si on peut avoir ces choses-là, on doit rester humble, absolument, en toute chose. Mettre les bonnes priorités. Ne pas faire, autrement dit, un Dieu pour la femme de sa beauté ou de sa grâce, ou de ses beaux habits, ou de ses beaux cheveux, si vous voulez. Ne pas en faire un Dieu, mais qu'elle les utilise avec reconnaissance envers Dieu. Alors, les femmes et les hommes doivent être humbles, enseignables et zélés. Suivre les voies du Christ. Imiter le Christ. Les deux vont être co-héritiers du Christ et héritiers de toutes choses. Après ça, il va plus loin. Vous pouvez aller à Tite. On n'est pas loin. On est dans Timothée. Allez dans Tite, s'il vous plaît, chapitre 2. Et Paul parle des dames âgées parce qu'elles ont un rôle important à jouer aussi. Les dames plus âgées dans l'Église, là, si elles ont marché avec Dieu, même si elles ne sont pas parfaites, automatiquement, elles sont plus matures. Avec les années, on doit devenir plus mature. Elles sont plus matures. Et à ce moment-là, Dieu leur donne la responsabilité d'aider les jeunes femmes dans l'Église. D'aider les jeunes femmes dans l'Église. Les conseiller, les encourager. Tite 2, versets 3 à 5. C'est intéressant, mesdames, que vous connaissiez ces choses-là, que ça vous soit rappelé, pour que vous voyez que vous avez plusieurs rôles importants à jouer. Et que, pour Dieu, c'est des choses qui comptent. Alors, Tite 2 et le verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Bon, donc la façon de s'habiller, la façon d'avoir les cheveux assez longs, comme une femme. N'être ni médisante, alors ne pas faire de commérage ou ne pas faire d'accusation ou transporter des informations de l'une à l'autre, garder les choses confidentielles, ni médisante, ni adonnée aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Oui, parce qu'elles ont vécu. Elles ont vécu et elles peuvent aider les jeunes femmes, les encourager. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Alors, voyez-vous, c'est encore le rôle d'une dame, mais rendue à un âge plus avancé. Autre rôle et responsabilité de la femme, c'est de mettre Dieu en premier en toute chose. Ce n'est pas différent d'un homme. Et son cheminement spirituel va faire en sorte qu'il sera meilleur si Dieu est en premier. Et je vous dirais ici, en premier en ce qui concerne tout. Il faut que Dieu soit en premier avant son mari. Il faut que Dieu vienne avant ses enfants et avant sa propre vie. Ça vous rappelle un peu les conditions du Christ quand on vient pour être baptisé? Celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants n'est pas digne de moi s'il ne m'aime pas en premier. Alors ça doit rester comme priorité pour nos dames. Dieu, le mari, les enfants, c'est ça la bonne priorité. Et ça fait partie de Matthieu 6, 33, là. Chercher premièrement le royaume et la justice, et le restant va tomber en place. J'ai tiré maintenant du cours de leadership de l'Église à la page 72, une explication d'un point important en tant qu'épouse, celui de se soumettre au mari. Et il y a des explications vraiment encourageantes et intéressantes là-dedans. Et ça nous montre comment faire. Parce que ça a été... dans le monde, c'est véhiculé de façon extrêmement négative. Dès que vous parlez qu'une femme doit être soumise à son mari, ça relève du Moyen Âge et c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens parce que c'est plus de nos jours et ainsi de suite. Mais regardez comment on explique la chose ici. D'ailleurs, on est basé sur la Bible qui dit, par exemple, Éphésiens 5, verset 23, « Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Éphésiens 5, 23, « Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » Est-ce qu'on peut reprocher à Dieu d'avoir établi le Christ comme chef de l'Église? Non, hein? Et on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir établi le mari dans un couple pour être le chef du couple. Éphésiens 5, 22. « Femmes, soyez soumises à votre mari, c'est-à-dire respectez son autorité, comme au Seigneur. » La soumission, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'idées par soi-même, ne plus discuter de rien, faire totalement ce que l'autre dit. C'est absolument pas ça. Absolument pas ça. On parle d'une collaboratrice, on parle d'une assistante, on parle de quelqu'un qui travaille en équipe avec celui qui est le chef de l'équipe. Et je cite ici à la page 72. « Se soumettre à l'autorité de son mari. Celui qui partage la vie de quelqu'un ne manque pas de découvrir ses défauts. » Et là, messieurs, si vous voulez savoir qui connaît le mieux vos défauts, demandez à votre épouse, parce que ça fait longtemps qu'elle est avec vous. Ou, si ça ne fait pas plusieurs années, elle est avec vous régulièrement. Et personne ne connaît mieux que l'épouse les fautes d'un homme. Se soumettre à l'autorité d'un conjoint imparfait, et ça, c'est le cas de chacun, là. Alors, pour l'épouse, se soumettre à l'autorité d'un conjoint imparfait, c'est quelque chose de difficile. Et c'est vrai. C'est quelque chose de difficile parce qu'il n'est pas parfait, le monsieur, là. Puis il faut que je me soumette à lui. C'est un test, là. C'est un test. Et il faut avoir l'aide de Dieu à chaque instant. J'ai aimé ça. C'est marqué clairement dans le cours de leadership. C'est pas facile de se soumettre à quelqu'un qui n'est pas parfait et qui est un chef au-dessus de nous. Mais c'est ce qu'il faut faire et on peut le faire seulement avec l'aide de Dieu. Comme nous, au travail, on doit se soumettre à nos patrons, comme le Christ doit se soumettre à Dieu et comme les maris doivent se soumettre au Christ. Voyez-vous? Tout ça se tient, c'est le gouvernement de Dieu. Dans la famille, il appartient au mari de prendre les décisions finales. Je n'ai pas dit toutes les décisions. Parce que parfois, il y a des maris qui ont mal compris ce que la Bible dit et qui se sentent obligés de prendre toutes les décisions, grandes comme petites ou infiniment petites, qui se prennent dans la maison jusqu'à la sorte de gruau à acheter ou la couleur des rideaux de la cuisine, alors que c'est la femme qui vit là-dedans le plus souvent, et ainsi de suite. Il y a des hommes qui se sentent obligés de faire ça. Mais si vous faites ça, c'est contraire à ce que Dieu vous demande. Parce que vous ne respectez pas l'aide que Dieu vous a donnée. Vous avez mal compris encore. Vous n'avez pas encore compris exactement ce qui doit se faire. Dans la famille, il appartient au mari de prendre les décisions finales. On parle des décisions importantes, majeures ici. Lorsqu'on n'arrive pas à voir les choses exactement de même façon, après avoir pris le temps d'en discuter, après avoir consulté Dieu d'abord, là, quand il y a une décision à prendre, bien là, il faut que quelqu'un tranche. Alors, c'est le mari qui a la responsabilité de trancher. Mais c'est le fun. C'est intéressant, parce qu'en même temps, c'est lui qui a la responsabilité des conséquences. Alors, mesdames, vous remettez ça dans ses mains, c'est toi qui décides, après ça, on vivra avec les conséquences, mais c'est lui qui aura la responsabilité des conséquences. Et il ne s'agit toutefois pas de décider seul. Alors, il y a des hommes qui sont habitués de décider seul, mais ça, c'est pas un couple. C'est un mari qui est resté célibataire dans sa tête. C'est un mari qui vit seul, en compagnie d'une chambreuse. C'est ça. Mettons les choses au clair. Et c'est pas ça que Dieu veut absolument pas. Et ça va tellement mieux. On a développé cette chose-là, mon épouse et moi, puis on a encore à le développer et à continuer à le faire, de parler des choses, d'échanger. Puis quand tu as des décisions, de soupeser le pour et le contre après avoir parlé à Dieu. Puis après, on va de l'avant. Et ça va tellement mieux. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Même si on peut avoir des façons de voir différentes. Mais ce n'est pas à moi à décider seul. Sauf que c'est à moi à prendre la décision finale. Si on n'est pas entièrement d'accord, après avoir consulté Dieu, là, quelqu'un doit trancher. Le mari doit chercher conseil auprès de son épouse. Chercher conseil, ça ne veut pas dire qu'il va faire exactement ce qu'elle va dire. Mais il doit chercher conseil. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Et quand on fait ça avec notre épouse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je la considère. Je la considère comme importante. Je la considère comme un être humain. Je la considère comme ma compagne. Je la considère comme mon associé, celle avec qui je bâtis des choses. Je cherche conseil auprès d'elle avant de prendre toute décision majeure. La femme doit ensuite respecter la décision qu'elle prend. Il a décidé, c'est comme ça. Et ensuite, on pousse dans cette direction-là parce que la décision a été prise. Là, après que c'est fait dans l'ordre que je vous dis, ce n'est pas le moment de bouder ou de ne pas être contente et de le faire savoir pendant 2 semaines que ce n'était pas ma façon de voir les choses. Il a fait les choses à sa... Non, on en a discuté, on en a convenu de différentes choses. On n'est pas arrivé à une conclusion claire, on a demandé à Dieu... Et j'ai été, en tant que mari, obligé de prendre une décision. Et après, on vit avec. Et après, mon épouse m'aide. Alors, la femme doit ensuite respecter la décision qu'il prend, même si elle aurait fait les choses autrement. Elle ne doit jamais sentir que son mari n'accorde pas d'importance à ses propos et se doit de lui laisser la décision finale. Dans le fond, c'est simple, mais c'est important que je vous donne ces données-là aujourd'hui, parce que ça fait la différence entre un couple qui marche bien et où il y a une sérénité dans la maison et où on vit les mêmes choses ensemble de bonne façon. Dieu a créé la famille humaine à l'image de sa propre relation avec son Fils, vous pourrez y penser, et plus tard avec l'ensemble de sa famille spirituelle. Ainsi, c'est au sein d'une famille physique qu'il nous a placés afin de nous permettre d'agir, d'apprendre et de croître. Plusieurs hommes se laissent aisément diriger par les autres, mais trouvent difficile de diriger eux-mêmes. Ça, c'est un problème de certains hommes. De difficulté à diriger. Mais il faut, messieurs, si c'est votre cas, que vous développiez de diriger. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu dans ce sens-là. Pourtant, c'est à eux que Dieu a confié cette tâche, comme il avait confié à Adam de prendre soin du couple. De même, plusieurs femmes, étant elles-mêmes de bons leaders, se laissent difficilement diriger par d'autres. Certaines dames ont ça en elles, d'être des leaders. Et c'est bien, c'est pas un défaut. Sauf que si c'est votre cas, vous devez quand même respecter la règle de Dieu et vous soumettre à votre mari, même s'il est peut-être moins au point de départ un leader que vous. Voyez-vous? Et là, le couple va marcher et il y aura des fruits de ça. Et pourtant, c'est à elle, aux dames, que Dieu a donné la responsabilité de se laisser guider. La personne adjointe au commandant n'est pas pour autant incapable de mener. La personne adjointe au commandant n'est pas pour autant incapable de mener. C'est vrai dans les forces armées, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans le couple. Et je me rappelle, M. Armstrong, en parlant de son épouse puis de son mariage, disait « J'aurais jamais marié une femme qui n'était pas capable d'être un leader. Mais j'aurais pas marié une femme capable d'être un leader qui aurait voulu continuer à être leader dans le couple. » C'est à peu près ça, je dis dans mes termes. C'est-à-dire qu'il voulait avoir une femme qui avait du caractère, qui était capable d'avoir de la volonté, mais en même temps, c'est lui qui allait mener quand même. Mais ils ont formé une équipe formidable aussi. Et elle se soumettait à son mari dans ce sens-là. Souvent, l'épouse est tout à fait capable de diriger. Mais Dieu veut qu'elle apprenne à se laisser guider en évoluant dans la structure familiale. Et j'ai vu plusieurs fois dans l'Église des jeunes femmes avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle, beaucoup de capacité, puis étaient capables de mener, mais qui ont compris, puis ont changé, ont mis ce zèle-là au service de leur mari, de leur famille, et ont laissé leur mari prendre la place qui leur revient, les ont même soutenus dans ce sens-là, et ça a changé pour le mieux. Et les résultats ont été formidables. Chaque fois, c'est pareil, c'est une recette gagnante. Dieu veut que la dame apprenne à se laisser guider en évoluant dans la structure familiale. C'est Dieu qui a désigné les rôles de chacun de manière à les aider à croître. La question est de savoir si nous acceptons de remplir les fonctions qu'il nous a assignées. Ça, c'est le premier point. Est-ce que j'accepte mon rôle et mes rôles? Est-ce que je les mets en pratique? Et vous savez, dans ce sens-là, je reviens là-dessus, le couple, c'est un terrain d'entraînement pour le monde à venir. C'est un terrain d'entraînement pour le monde à venir. On va former le gouvernement. Tous d'entre nous, nous allons être soumis à quelqu'un d'autre. Et nous apprenons tous à être soumis maintenant. Nos épouses à nous, nous au Christ, le Christ à Dieu. Et c'est déjà la structure gouvernementale qui apparaît. Vous pourrez aller voir dans Proverbe 31, verset 10, Dieu manifeste son appréciation d'une femme qui a du caractère. Qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est une femme qui a du caractère. Une femme qui est digne de confiance, capable de faire des bons choix de plus en plus, de pratiquer la justice de Dieu, de faire preuve de sagesse, de prudence, qui est économe, qui dirige sa maisonnée. Il faut que le mari laisse l'épouse diriger sa maisonnée aussi. Ce n'est pas à lui à tout diriger partout, 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 dans tous les moindres détails, comme j'ai mentionné tantôt. Et c'est très, j'ai vu des cas dans le passé où l'homme administrait sans en informer sa femme du tout. Et quand l'homme est décédé, mais la femme était incapable d'administrer. Elle ne savait absolument pas comment les choses fonctionnaient, comment faire les chèques, comment payer les paiements, qu'est-ce qu'il y avait à payer, comment organiser les choses. Alors que dans un couple, on doit apprendre l'un de l'autre à faire les choses ensemble et le mari doit montrer à sa femme comment administrer. Lui peut administrer ou il peut confier à elle certains dossiers, pour administrer. Nous, on n'administre pas toutes la même chose. Mon épouse administre certains domaines de la maison. Je ne m'occupe jamais, en ce qui me concerne, de l'épicerie, des factures de ça, de d'autres éléments de notre administration. Moi, je m'occupe de certains éléments, mais elle est au courant de ce que je fais. Et parfois, je suis au courant de ce qu'elle fait. Mais si jamais je partais, elle ne sera pas mal prise. Elle sait quels sont mes comptes, quelles sont mes obligations, comment les choses fonctionnent, les assurances, et ainsi de suite. Il faut qu'on soit vraiment une équipe dans tout. Et maintenant, je vous donne un grand encouragement. 1 Corinthiens 7. Il ne faut pas que j'oublie ça. 1 Corinthiens chapitre 7. Si une dame chrétienne est mariée à un non-croyant, vous savez une chose? Et ça, c'est encourageant. Dieu dit que le mari et les enfants sont sanctifiés, sont aux yeux de Dieu dans une catégorie spéciale, à cause d'elle. 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints, c'est-à-dire dans une catégorie à part aux yeux de Dieu. Ça, c'est formidable, c'est tellement encourageant. Et l'histoire, en ce qui concerne ce qui s'en vient avec les événements qui se profilent devant nous, elle n'est pas terminée. Et Dieu travaille avec nos enfants, Dieu les aime, et Dieu a placé dans une catégorie à part nos enfants, même qui ne sont pas dans l'Église actuellement, pour le moment. Il y a des situations difficiles, bien sûr, quand une femme est mariée avec un conjoint non converti. Parfois, il n'y a pas de conflit, mais parfois, il y a des conflits. Et là, s'applique Acte 5, verset 29, qui dit « Faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Alors ça, ça reste la règle qu'il nous faut suivre, qu'il nous faut appliquer. Il y a un article, dans l'article que je vous ai cité de M. Cicilla, je vous traduis ici un passage important. « Certains ont été appelés dans l'Église de Dieu avant leur conjoint. D'autres sont mariés à des conjoints qui ont quitté la vérité. » Dans un cas comme dans l'autre, le conjoint converti doit aimer et prier pour le conjoint non converti, être gentil et fidèle. Dieu va récompenser le conjoint fidèle en lui donnant la force et la sagesse. Il ne permettra pas que d'être testé au-delà de ce qu'il peut supporter. Alors, même ceux et celles qui sont dans ces circonstances-là, Dieu dit, si vous êtes fidèle, je vais vous amener à bon terme. Tellement encourageant. Et les maris chrétiens doivent aimer leur femme et se donner à elle, comme le Christ s'est donné à l'Église. Ça veut dire protéger leur épouse. Ça veut dire leur parler. Je n'ai pas insisté là-dessus tantôt, mais je prends 2 secondes. Leur parler. Parce que souvent, les hommes ont le problème du silencieux fermé. C'est-à-dire qu'on est porté à ne pas parler, à ne pas exprimer ce qu'on ressent ou à ne pas donner les nouvelles. « Comment ça a été aujourd'hui, chérie? »« Bien. » »« Ça en va. » »« L'autre côté. » »« Ben oui, ça a été bien, il l'a dit. » »« Mais il n'a rien dit. » Dans le fond, ce qu'elle voulait savoir quand il est revenu du travail, c'est « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qui t'a rencontré? Comment tu as vécu les choses? » Alors là, il pense comme un garçon, comme un homme. Il a donné une réponse résumée. Il pense que c'est réglé. Mais non, si on fait ça, c'est qu'on ne considère pas que notre conjointe, elle est différente et qu'elle a des besoins différents. Elle aurait été seule toute la journée et elle a besoin d'avoir un peu de détails sur ce que nous, on a vécu. Puis ensuite, entendre ce qu'elle a à dire aussi sur ce qu'elle a vécu. Donc, il faut parler à notre épouse, puis il faut l'écouter. Prendre le temps d'écouter nos épouses. Messieurs, ça, c'est une faiblesse que les hommes, en général, ont, de ne pas prendre le temps de regarder le point de vue de leur épouse. Prendre le temps de les laisser s'exprimer. Leur laisser l'espace vital dont elles ont besoin. C'était important. Tenir compte de ses goûts, tenir compte de ses besoins, tenir compte de ses opinions. Certains vont rester surpris. Par exemple, des fois, vous m'invitez à manger. Puis là, je vais dire, ben, attendez un peu, je vais en parler à mon épouse. Je sais que certains ont été surpris quand j'ai fait ça dans le passé. Mais c'est la moindre des choses. Je ne sais pas, moi, ce soir, par exemple, si mon épouse n'est pas en forme. OK? Il faut que je lui parle avant. Et je ne sais pas si elle-même n'a pas eu un appel téléphonique pour nous dire qu'un de nos enfants s'en venait nous visiter tantôt et qu'elle n'a pas eu le temps de me le dire. Si moi, je prends la décision, oui, on y va. On va aller manger avec vous. Mais qu'elle n'est pas disposée ou qu'il y a d'autres choses de préparer ou d'autres choses de prévues, comprenez-vous que je ne respecte pas ses besoins et sa situation. C'est rien que de dire, je vous reviens, j'en parle à mon épouse et je vais vous revenir. Et on n'a pas du tout à se sentir moindre à cause de ça. Au contraire, c'est exercer le leadership. Parce qu'un leader respecte ceux avec qui il collabore. C'est une des premières qualités qu'on doit avoir et développer. Tenir compte des goûts de l'autre, des besoins de l'autre, de ses opinions. Agir avec douceur, avec patience, avec considération. Ne pas être dur avec notre conjoint. 1 Pierre 3. Je pense que c'est important qu'on voit ça ici. 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7. Parce que si on ne tient pas compte des goûts de notre épouse, si on ne tient pas compte de son opinion, si on ne l'écoute pas quand, dans ses besoins, quand elle dit « chérie ou mon mari, je voudrais plus dans l'avenir qu'on soit dans telle ou telle circonstance parce que prendre le temps de l'écouter et considérer ce qu'elle demande. Parce que s'il y a un besoin, je me dois d'y répondre et non pas de passer par-dessus en disant « elle pense comme ça, mais elle devrait penser comme moi. » Parce qu'il y a une conséquence à ça. C'est que Dieu, messieurs, si vous faites ça, n'entend pas vos prières. Et il y a des prières dans l'Église qui ne sont pas répondues parce que vous n'entendez pas la prière de votre épouse. Quand votre épouse vous souligne un de ses besoins, j'aimerais mieux que, et c'est plusieurs fois qu'elle vous revient avec ça, mais vous considérez que oh, c'est des idées de femme, ou elle ne voit pas les choses comme je les vois. Vous allez être en prière devant Dieu et vous dites à Dieu, aide-moi dans telle circonstance. Pensez-vous que Dieu va vous traiter de façon différente de celle que vous traitez votre épouse? 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe ou un être plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter de vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous comprenez bien ce qui est écrit ici, c'est que mes prières peuvent être bloquées par rapport au trône de Dieu si moi, je n'ai pas cette considération-là pour mon épouse. Si je n'entends pas ses prières, ses supplications, ses demandes, et si je ne réponds pas à ses besoins, comme c'est ma responsabilité. Nous, les maris, on ne doit jamais oublier que notre Seigneur et Maître a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a même donné sa vie pour chacun de nous, pour l'Église. En terminant, on voit, j'espère que vous avez vu encore davantage et que ça va vous encourager, mesdames et messieurs, nous, à respecter davantage les dames dans l'Église. Dieu considère chaque femme chrétienne comme une princesse très estimée. Vous connaissez Abraham, le père des croyants. Il y avait une épouse formidable. Vous connaissez son nom, Sarah. Vous savez ce que Sarah veut dire? Sarah veut dire princesse. Le nom de Sarah, comme notre petite Sarah Gauthier, ici dans l'Assemblée, qui a 5 ans, ça veut dire princesse. Alors, Dieu considère la femme chrétienne qui veut faire sa volonté comme une princesse très estimée, comme une aide capable et précieuse pour Dieu, pour son œuvre, pour l'Église, pour le mari, pour la famille. La femme chrétienne qui s'applique à accomplir ses responsabilités, à jouer son rôle, développe les qualités nécessaires pour servir non seulement actuellement dans sa famille physique, mais pour servir 2, 3, 10 villes dans le monde à venir, ou même une région complète. En terminant, je vous cite simplement Proverbe 31, verset 30. « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, celle qui joue son rôle comme elle doit le jouer, qui s'applique à le développer avec l'aide de Dieu. » Et verset 31, « Récompensez-la du fruit de son travail. » C'est formidable. C'est tellement encourageant de voir les choses comme Dieu nous les montre en ce qui concerne le rôle précieux des femmes dans l'Église.